Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Bienvenue encore une fois dans ce magazine de la vie au quotidien, Okapi Service. Aujourd'hui, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, nous allons parler de l'adhésion de la RDC à la communauté de l'Afrique de l'Est. Eh bien, la RDC a rejoint au mois de mars dernier la communauté d'Afrique de l'Est en tant que 7e membre, élargissant ainsi massivement les territoires de ses blocs commerciaux, lui donnant accès à l'océan Atlantique et augmentant considérablement le nombre des francophones dans ce qui était au départ un club d'anciennes colonies britanniques. Selon nos sources, la RDC a demandé son adhésion en 2019 dans le but d'améliorer les liens commerciaux et politiques avec ses voisins d'Afrique de l'Est. Quels sont les avantages de cette adhésion à la communauté de l'Afrique de l'Est? Nous avons en ligne le professeur Kaloumé, professeur Prince Kaloumé Beya. Bonjour.
Bonjour, cher ami. Bonjour.
Vous êtes expert en droit international public. Que représente pour vous cette adhésion de la RDC à la Eastern African Community?
Bon, il faut relever que, à mon sens, ça ne représente pas vraiment grand-chose, dans la mesure où les débats restent les mêmes. On sait que nous sommes dans plusieurs organisations au même moment. Et nous sommes des États souverainistes, c'est-à-dire que nous tenons plus à nos indépendances qu'à l'intégration même. C'est le débat qu'il y a eu entre le groupe de Monrovia, Casablanca, tout ça, dès la genèse même de la création de l'OUA. Il y avait ceux qui voulaient l'intégration et ceux qui voulaient la souveraineté. Et puis vous savez que nous nous retrouvons dans cette communauté avec des États qui nous sont frontaliers, mais avec lesquels nous sommes en difficulté de coexistence pacifique. Donc ça pose des vrais problèmes, ça pose des vrais problèmes, dès lors que nous affirmons notre souveraineté, mais faciliter l'intégration alors qu'on a des frontières poreuses, avec risque des actions déstabilisatrices, vous allez convenir avec moi que ça sera un peu très difficile de réaliser ça. Et d'ailleurs, l'objectif qu'il y a avec cette nouvelle communauté, cette nouvelle adhésion, c'est presque le même objectif qu'il y a avec la SADC, qu'il y a avec la CEAC, et ainsi de suite. Donc, c'est une problématique, c'est vrai, ça peut permettre dans une certaine mesure d'aller vers la pacification, d'assurer un équilibre dans les échanges entre États, mais à mon sens, on ne bénéficiera pas de grand-chose. Il faudrait revoir plusieurs paramètres pour que la circulation des biens et services des personnes soit un peu plus fluide, voyez-vous? Ça, c'est mon point de vue à première vue, lorsque j'ai lu tout ce qu'il y a eu comme activité diplomatique, perspective d'adhésion dans cette communauté qui existait depuis bien longtemps, effectivement, comme vous l'avez dit,
oui,
qui appartenait aux États qui ont tendance à aller vers la Commonwealth. Et nous sommes au centre dans une position un peu délicate, mais il faudrait faire avec. Jusque-là, je ne sais pas ce que ça va vraiment apporter, je ne sais pas, je ne vois pas trop. Mais espérons que ça va aller si on change des paradigmes des politiques étrangères, des paradigmes d'intégration, ça pourra aller.
Voilà, quand vous parlez d'intégration, qu'est-ce que cela implique exactement?
Bon, l'intégration, c'est tout un processus, hein. Vous voyez, comparativement au modèle européen, on a commencé à intégrer les économies pour arriver à intégrer les politiques. Mais nous commençons peut-être par l'inverse. On intègre par les politiques et on veut faire l'économie, ce qui veut dire qu'on est en train de fausser un peu le modèle européen, qui est le modèle classique de l'intégration. Alors, c'est comme ça que, à partir du moment où vous prenez notre perspective, qui n'est pas celle du classique du modèle d'intégration, il faut déjà vous faire à l'esprit que vous aurez beaucoup de difficultés pour que ça marche. Parce que vous imaginez déjà les États qui sont frontaliers, les populations s'apprécient presque à peine. Quand bien même qu'il y a un vouloir vivre collectif qui découle du fait de la frontière, on peut commercer, on peut faire le troc, Mais est-ce qu'on peut accepter que des sociétés étrangères s'installent ici facilement, ainsi de suite, avec une main-d'œuvre locale ici, sans considération des quotas, ainsi de suite? Ça pose beaucoup de problèmes. Ça pose beaucoup de problèmes. C'est pour ça que moi, personnellement, je suis... En fait, j'aime bien l'intégration. Moi, je suis favorable à l'intégration parce que je peux prendre mon véhicule à partir de Kinshasa, aller jusqu'en Tanzanie par route. Ça, c'est une bonne chose. Je suis, par exemple, d'accord avec l'idée que l'Ouganda nous fasse des routes. Je suis d'accord. Mais est-ce que les frontaliers, là, sont d'accord? Est-ce que les peuples qui clament la souveraineté est d'accord? Voyez-vous, c'est un peu ça la problématique la plus difficile qu'il faudrait réussir. Avec
professeur, oui, mais vous dites que l'intégration doit d'abord être au niveau économique. Alors, au niveau économique, comment ça se fait concrètement? On lève toutes les barrières douanières?
Non, on commence par appliquer les tarifs intérieurs communs, ce qui n'est pas encore le cas. Et puis après, on va lever les barrières. Et puis après, on va assurer la circulation des biens et services des personnes. Mais si nous n'avons pas ça, espérons qu'il y ait un calendrier, espérons que le processus aura un calendrier clair pour assurer les étapes. Mais ce que nous faisons déjà dans le cadre de cette communauté, nous l'avions également dans le cadre d'autres communautés. On n'a pas encore de bilan jusqu'à ce jour. Et bon, on espère que ça pourra marcher. Mais jusque-là, les perspectives ne sont pas claires. On multiplie les adhésions, mais sans politique réelle d'intégration, sans politique effective d'intégration. C'est ça un peu ce qui est faible chez nous. Mais on croit comme scientifique que le politique comprendrait mieux l'enjeu qu'il y a dans ces adhésions et permettrait à ce que les choses puissent respecter le cadre d'intégration tel qu'il est prévu par ceux qui ont fait ça avant nous.
Donc, d'après vous, il n'y a aucun bénéfice, il n'y a rien à gagner dans cette intégration.
Pour être sincère, à moyen et à court terme, à moyen terme, il n'y en a pas. Peut-être à long terme, mais si on reste dans le classique de ce qui doit être, peut-être.
Bien, on va accueillir les auditeurs. Nous avons Monsieur Malunga en ligne. Nous parlons aujourd'hui des avantages de l'adhésion de la RDC à la communauté de l'Afrique de l'Est. Vous voulez participer, vous avez des questions et préoccupations, appelez au 081 890 63 94.
Vous êtes une femme leader, vous connaissez une femme leader.
Responsable politique, au cadre d'État, avocat, juge, journaliste, responsable dans la société civile, le monde académique, les entreprises publiques, les organisations internationales, les ONG, entrepreneurs ou encore leaders communautaires. Connectons-nous, faites-vous connaître pour intégrer le premier annuaire des femmes leaders en RDC, produit par ONU Femmes, l'Organisation des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes.
Contactez-nous par téléphone au 082 629 11 54 ou alors par email femmeleader@gmail.com.
Bien, nous parlons des avantages ou non de l'adhésion de la RDC à la communauté de l'Afrique de l'Est. Nous avons en ligne Malunga et Charles Kisimba de Lumbashi. Malunga, vous êtes à Bandundouville, bonjour.
Oui, bonjour Jody, bonjour notre invité.
On vous écoute.
Oui, en tout cas c'est un sujet qui pique au cœur des Congolais. Oui, les avantages de la communauté des pays de l'Afrique de l'Ouest, la RDC, automatiquement et obligatoirement, ils doivent s'y trouver. Mais malheureusement nos voisins n'ont pas de bonne humeur et de bonne position à notre pays. Puisque, pourquoi nous disons comme ça, je dis, vous allez nous excuser, vous allez m'excuser. J'ai suivi tout ce que l'invité a dit. L'invité est professionnel. L'invité est vraiment maître. Il peut dire de tout ce qu'il connaît, c'est la professionnalité. Mais nous les Congolais, ce que nous vivons avec nos voisins, en tout cas, nous ne pouvons pas apprécier. Et être dans la communauté, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas mauvais. Mais si nous contactons que cette communauté est contre nous, vraiment, même dans le village, s'il y a une association, et vous voyez que cette association n'est pas vraiment avantageuse sur vous, vous pouvez vous retirer, ce n'est pas un péché. Hein? Aujourd'hui, ce sont les pays de l'Est, nos voisins de l'Est, qui déstabilisent le Congo. Ce sont les rebelles du pays de l'Est qui viennent revendiquer leurs droits de leur pays ici chez nous. Ce qui ne peut jamais se faire ailleurs. Et ça, cette communauté-là va produire quoi? Alors, l'invité là, il a tout dit, il a expliqué ce qu'il a vu, ce qu'il connaît, ce qu'il enseigne aussi. Oui, c'est bon. Alors, par rapport à nous qui souffrons suite à cette communauté, nous voyons que nous entendons souvent les bonnets de cette communauté, même de l'ONU, mais nous ne voyons pas. Si nous arrivons aujourd'hui de refuser d'être comme ça, sans être dans cette communauté, est-ce que le monde peut nous voir mal? Alors la faute de ça, c'est que je peux demander à l'invité, qu'est-ce qu'il peut proposer à ceux qui présentent la RDC, donc les politiciens et les dirigeants? Tout ce qu'ils sont en train de faire à ces communautés n'arrive pas à atteindre. Or, eux, ils se voient qu'ils sont plus malins que les voisins. Or, ce sont les voisins qui leur pénètrent. Hein? Vous voyez tout ce que nous subissons là, c'est nous les Congolais qui souffrons. Hein? Et la communauté là. Et nous sommes à l'intérêt. Et ils vont faire semblant de mettre les Congolais en tête comme si c'est nous qui dirigeons. Or, c'est eux qui font le mal contre les Congolais. En tout cas, l'avantage vraiment à la RDC d'être à cette communauté, moi je ne vois pas ça, À moins qu'il y ait d'autres formules pour que le Congrès se réjouisse de ces communautés. Ce n'est pas que nous seulement qui souffrons et les autres soient en bonne situation, en sécurité, en tout ça. Et nous sommes toujours en insécurité. Vous voyez, des décennies, le Congo est en sécurité.
Merci Malonga. Merci Malonga.
D'accord.
Merci Malonga. On va donner la parole à présent à Charles Kisimba de Lumbashi. Bonjour Charles.
Bonjour Jody, bonjour aussi à l'invité.
Quelle est votre réaction par rapport à l'adhésion de la RDC à la communauté de l'Afrique de l'Est?
Oui, par rapport à l'adhésion de la RDC, j'aimerais un peu demander à l'invité, est-ce qu'une adhésion est-elle forcée ou bien elle est libre? Parce que nous comprenons que dans le contexte de notre pays, par exemple, c'est comme si la RDC a toujours été intimidée. C'est comme si la RDC n'a jamais eu les mots pour dire oui ou bien non. Alors nous voulons un peu savoir, est-ce que toutes les adhésions-là que la RDC a toujours fait, que ce soit dans les organisations régionales, tout comme sous-régionales, est-ce que elles sont toujours forcées ou bien sont libres? Alors, si elles sont forcées, est-ce que la RDC ne pourra pas d'abord se retirer, ou bien si elles sont libres, la RDC ne pourra pas quand même se retirer et recruter pour travailler en nombre, même dans 30 ans, 50 ans, et puis recommencer quoi, ça, son bon nombre de chemin. Parce que nous comprenons que tous nos amis, avec qui nous sommes dans la SADC par exemple, ils sont très bien, ils sont très bien sur le plan économique, sauf la RDC. Nous voyons à l'effet de l'Est, parce que c'est le cas aujourd'hui. C'est toujours les complices, ce sont les mêmes chats qui endraient la RDC. Alors je ne sais pas si c'est une complaisance, bien s'il s'agit de quoi, de retrouver encore ou parler encore de l'appartenance dans les organismes nationaux, tout comme les organismes régionaux, tout comme sous-régionaux. Alors nous voulons un peu savoir, parce que ça nous dépasse, si l'adhésion elle est libre ou elle est forcée.
Bien, merci. Professeur Prince Kaloumé, à vous la parole.
Merci beaucoup, cher ami. J'ai suivi les interventions des deux intervenants, que je remercie en passant. Monsieur Malonga qui me demande ce que je peux proposer comme solution, parce que ceux qui vivent à l'intérieur sont en difficulté. Je vais peut-être l'étonner. Moi, je suis un fin partisan de la force. Je le dis toujours, même dans mes écrits. Ne peut se faire respecter dans une sous-région qu'un État militairement puissant. C'est vrai. Lorsqu'on a la puissance militaire, elle peut permettre que nous puissions avoir la puissance économique. Il y a certains voisins qui l'ont démontré. lorsqu'ils ont réussi à occuper des terres qui n'étaient pas les leurs, ils ont réussi à acquérir une puissance économique. Aujourd'hui, on parle d'eux en termes de puissance économique au niveau de la région. Alors, nous, si on peut faire la même chose, on peut, bien entendu, user de notre droit de souveraineté, pour étendre nos capacités militaires de dissuasion vers d'autres zones opérationnelles, au point que si nous arrivons à mater, pas à négocier la paix. La paix, nous l'avons négociée plusieurs fois, on s'était mal pris. Lorsqu'on négocie, on brasse les mêmes personnes, on les laisse dans le même coin et ils reprennent les mêmes activités au point qu'aujourd'hui,
oui.
On a un conflit qui s'est presque enlisé, qui n'a presque plus de perspective. Vous imaginez ceux qui étaient rebelles en 1998 ne les sont plus. Mais pourquoi il y a toujours des rébellions?
Professeur, professeur Prince, est-ce
oui.
qu'on peut comprendre par là que pour adhérer à une organisation régionale, il y a des préalables. Il faudrait peut-être d'abord être fort militairement et économiquement avant d'aller faire partie d'un ensemble.
Ça me permet d'ailleurs de rencontrer la question du deuxième intervenant, c'est que l'adhésion est libre, donc il n'y a pas de forcing. Chaque État exprime sa souveraineté librement en adhérant ou en refusant d'adhérer. Il n'y a pas d'obligation. Mais c'est une question d'opportunité politique. Chaque gouvernement, chaque dirigeant, le chef de l'État, les affaires étrangères, les ministres d'intégration régionale, ainsi de suite, tous ceux qui interviennent dans cette ligne-là peuvent estimer que pour affermir nos liens avec tel ou tel autre État, il serait mieux que nous entrions, nous adhérions à une organisation régionale, sous-régionale pour le cas qui nous concerne ici. Il n'y a pas d'obligation. Mais seulement, lorsque vous voudrez adhérer, il faut savoir qu'est-ce que vous gagnerez. En termes de gagner, c'est aussi une question d'opportunité politique. Nous sommes, nous, dans plusieurs organisations régionales. Je vous ai dit, je réaffirme ici que je suis intégrationniste. J'aime
oui.
l'intégration. Je suis d'accord pour le projet route, chemin de fer, rail. Je suis d'accord. Mais on fait ces choses-là dans quel état d'esprit? Qu'est-ce que nous nous apportons? Militairement, nous sommes en train de renaître. Ce qui fait que des fois, quand nous négocions, vous voyez même les phares d'essai à l'Est, ils sont toujours à la défensive. Donc,
oui.
Ils n'arrivent
professeur,
pas à aller plus loin. Oui.
Oui, professeur Prince, qu'est-ce qu'on peut gagner dans en intégrant une organisation sous-régionale? Qu'est-ce qu'on peut gagner?
On gagne l'interdépendance. On dépend d'eux et dépend de nous.
Oui.
C'est l'interdépendance qui va faire que nous puissions avoir, s'ils ont des ressources, nous pouvons les exploiter de manière commune. C'est comme ça que l'Europe s'est construite avec la communauté économique du charbon et de l'acier en 50. La France et l'Allemagne qui étaient en guerre ont réussi à mettre en place des structures communes. Et jusqu'à ce jour, ça fonctionne. Elle est arrivée au niveau d'une intégration économique et politique parfaite. Nous aussi, on peut faire ça. Nous aussi, on peut faire ça. Mais seulement qu'on doit avoir... Nous, on a effectivement dans nos minéraux. Moi, j'ai vu qu'on a construit une industrie, je crois, de raffinerie de l'or au Rwanda. Je crois que c'est l'or ou le coltan. Ça crée des problèmes. Moi, je suis d'accord. L'industrie peut être là, mais les dividendes sont partagés entre États. Nous gagnons. Nous, on n'a pas pu construire et on construit. Si nous rétrocèdons nos pourcentages normalement, si nous pouvons contrôler la sortie des minerais qui sont raffinés là et que les dividendes sont retournés, pas de problème. C'est ça l'intégration. Mais est-ce que ceux qui sont là, les autochtones, sont disposés de faire ça? Sont disposés d'aller dans cette perspective? C'est un grand travail qui doit être fait au niveau même de l'État, pour que les peuples comprennent, pour que les structures soient viables. Mais je comprends aussi l'inquiétude du premier orateur. Nous adhérons. Nous gagnons quoi, nous, en fin de compte? Nous gagnons le prestige. Un État a aussi besoin du prestige, qu'on sente qu'il est là, il contribue. Et il prend des initiatives au niveau régional. Et ça marche. Mais si nous n'avons...
Parce qu'à un certain moment, on disait la RDC était en recul, tout ça. Alors il est grand temps de passer aussi à l'offensive, de soigner l'image du pays, peut-être en rejoignant des organisations à gauche, à droite. C'est comme vous l'avez
non,
dit, c'est...
On soigne pas l'image du pays en adhérant aux organisations sous-régionales et régionales. On change l'image du pays en ayant une bonne politique nationale, en résolvant ces problèmes internes qui auront une incidence, parce que on peut ne pas adhérer aux organisations internationales, mais on peut plutôt conclure des conventions internationales qui permettent à ce que d'autres États puissent observez ce qui se passe chez vous. C'est aussi un mouvement possible. Au lieu d'adhérer, on a des conventions multilatérales avec les mêmes États qui permettent à ce que vous puissiez tirer des avantages. Ou on peut même demander, solliciter à profiter des avantages que la communauté offre comme État, comme nation. L'expression m'échappe, il va revenir. Donc on peut profiter, on peut demander à profiter des avantages que la convention donne sans nécessairement adhérer. Mais ça, ce sont des mécanismes. Il faudrait que ceux qui vont prendre la nation la plus favorisée. Donc ce sont des concepts comme ça, on peut solliciter à profiter de certaines, pour profiter de certains avantages qu'offrent les conventions dans le cadre de cette organisation. Ou même signer des conventions avec l'organisation pour bénéficier de certains avantages, c'est possible, sans peut-être adhérer. Mais si nous prenons l'initiative d'adhérer, tant mieux, on adhère, mais soyons conséquents, parce qu'il faudrait contribuer, il faudrait supporter les charges. Donc ça peut nous permettre que nous puissions aussi avoir un ambassadeur, des diplomates là-bas, qui sont installés chez l'organisation, tant mieux. Tout ça, c'est toujours une vision interne qui commence par les affaires étrangères, qui prend en compte les autres ministères. Et dans cette fierté nationale-là, on peut avancer. C'est ce qu'on peut aussi tirer.
Bien, on va accueillir d'autres auditeurs. Héritier de Bounia et Jean-Baptiste de Kisangani. Héritier, bonjour.
Bonjour, aujourd'hui, bonjour à l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Héritier?
Je pense que avant de s'adhérer à une organisation, il faudra qu'il y ait des bénéfices, ou bien il faudra d'abord placer les avantages et on verra si on saura supporter les charges, ou bien on verra ce qu'on va gagner dedans. Je voudrais poser la question à M. Lévité. Parce qu'il veut de nous dire que il y a ce que la RDC a gagné, ce que dans cette adhésion. Je voudrais poser la question. Qu'est-ce que le peuple entend dans cette adhésion? La deuxième question est que parce que ce sont les pays français là qui tirent pour de nos minéraux. Ce sont les pays français qui installent leurs sociétés étrangères dans notre pays. Chose qui ne peut pas se faire dans leur pays. Alors, est-ce que ce n'est pas encore la manière de venir piller nos minéraux? Ce n'est pas le cas. Voilà ce que j'avais comme préoccupation.
Merci Jean-Baptiste, vous êtes à Kisangani. Bonjour. Jean-Baptiste de Kisangani, bonjour.
Bonjour, bonjour aujourd'hui. Bonjour aussi à tous les auditeurs.
On vous écoute, Jean-Baptiste.
Oui, vraiment, aujourd'hui, d'abord, félicitations pour avoir choisi cette émission. Moi, je suis aussi du côté de l'FCC. Je ne sais pas ce que notre pouvoir est en train de faire. Comment est-ce que nous devons nous associer avec ceux qui sont clairement bien déchiffrés que ce sont nos ennemis qui nous font la guerre? Si on parle des Codego, ce sont les mercenaires d'où? Aujourd'hui, il y a M23. Ce sont les Rwandais qui sont là, qui nous attaquent. Maintenant, nous allons nous associer à eux pour parler quoi? Alors que nous sommes attaqués par ces gens-là, on dit que les premières négociations soient pour que l'on cesse. On harmonise peut-être les relations et qu'on sort, mais nous allons en tout cas nous adhérer à des. Ça nous rapporte quoi pendant que dans notre propre pays, rien n'est mal, les gens sont en train de mourir chaque jour, et ce sont les mêmes voisins-là qui nous attaquent, mais nous allons encore nous associer à eux dans un effort comme ça. Voyez un peu ce que ça fait, c'est que, est-ce que nous avons peur de ces gens-là? Ou bien, qu'est-ce que nous allons vraiment rapporter de bon? Ensuite, je pourrais dire ceci. Aujourd'hui, les Rwandais n'ont pas de l'or. Mais ils ont, depuis 6 mois, une usine extrêmement d'or là-bas. Notre gaz méthane est exploité par eux. Du côté Ouganda, notre pétrole. Ils sont en train de faire là, peut-être d'ici une année, deux ans, il y aura une raffinerie là-bas. Mais nous-mêmes, nous ne faisons rien. Et alors, nous allons nous associer à ces gens-là pour aller faire des courbettes, ou bien pour gagner quoi? Pendant que nous sommes bien, tout le monde le voit. Au lieu d'abord qu'on brandisse ça, que c'est qu'il y a la cesse pour que nous puissions peut-être négocier avec eux, ou bien alors chercher aussi à mettre toutes ces raffineries, toutes ces usines-là de traitement, c'est nous. On ne peut pas chercher, mais on va se rallier à eux pour les cajoler, pour les remercier et pour les féliciter. Vraiment, c'est un fait que c'est vraiment écœurant.
Bien, voilà. Merci, merci Jean-Baptiste de Kisangani. Professeur Prince Kaloumé.
Merci beaucoup, Monsieur Jean-Baptiste. J'ai bien suivi votre préoccupation. Deux fois, le choix de l'État à un niveau stratégique, surtout s'il n'y a pas de communication, on peut ne pas les comprendre, mieux les comprendre. Je crois que lorsque vous lisez la démarche dans les chefs de nos dirigeants, les chefs de l'État en particulier, il y a ce souci de fédérer le voisin, parce qu'il n'y a pas, on ne peut pas ménager les efforts. On doit tout tenter pour arriver à la paix. Voyez-vous? Alors je crois que c'est dans cette perspective-là. Nous, avec nos voisins, nous sommes liés par les sorts. Même frontières, rivières, lacs, ainsi de suite. Nous serons obligés de coexister pacifiquement. Nous serons obligés de gérer ensemble. Parce que si nous exploitons chez nous, il faut sortir par chez eux peut-être. Ça serait plus facile. Donc ce choix-là, il faut le mettre à un niveau stratégique très élevé de la décision où les autorités ont estimé que qu'il faille fédérer avec les autres, il faille aller ensemble avec les autres pour pacifier la région. C'est une option, c'est un choix qui peut ne pas être bon aujourd'hui, qui peut être bon demain. Mais ce qui est important, c'est que qu'on fasse quelque chose. Je suis parfaitement d'accord que l'État a pour obligation d'assurer le bien-être de sa population. Outre le fait que nous puissions adhérer à cette organisation sous-régionale, il importe pour l'État congolais, pour les dirigeants congolais, de nous assurer la sécurité et le bien-être. Ça veut dire qu'il faudrait impérativement qu'il y ait une action importante de sécurisation de l'intérieur, des recherches de bien-être pour nous permettre de mieux nous positionner. Comme je l'ai dit, je ne trouve aucun inconvénient que la raffinerie soit au Rwanda. Il n'y a aucun inconvénient. Dès lors que le principe de partage des dividendes est clairement établi, il n'y a pas de problème. Si nous pouvons envoyer nos Congolais aller travailler dans cette usine-là pour nos intérêts, il n'y a pas de problème. C'est ça même l'idée d'intégration. Mais si ça ne doit servir que le Rwanda, ça n'empêche pas que la RDC puisse construire ses propres usines. Eh bien, l'or, là, c'est naturel. Ça peut aussi finir. Vous voyez que nous avons avec des diamants qui n'existent presque plus et qui réapparaissent dans d'autres coins. Ça peut aussi finir. Voyez-vous, en ce qui concerne l'ami qui a posé la première question, qu'est-ce que le peuple gagne? C'est vrai. Le peuple, ce dont il a besoin, c'est manger, c'est résoudre ses problèmes. Mais le choix politique du peuple peut ne pas être celui du dirigeant. Le dirigeant, c'est celui qui doit être éclairé, qui voit un peu plus loin. Je m'imagine que ceux qui ont pris la décision, qui ont délibéré pour qu'on adhère à cette organisation, effectivement, j'ai essayé un peu de revoir tout ce qu'il y a eu comme réunion au plus haut niveau des ambassadeurs, des diplomates. Bon, si ça peut permettre que... Parce qu'en réalité, si vous vous rendez bien compte, entre ces états-là, il y a déjà des faits sociaux qui ont précédé le droit. C'est qu'il y a des peuples qui se sont installés dans les différents états. Ça même qu'il y ait une réglementation. Mais par l'effet des migrations au niveau interne des états, au niveau international, les peuples se retrouvent de part et d'autre. Mais ainsi peut y avoir un mécanisme juridique d'accompagnement. C'est déjà un gain. S'il peut y avoir des mécanismes juridiques d'accompagnement des économies, c'est aussi un gain. Mais c'est qu'il faut que, il faudrait que l'accompagnement soit efficace.
Professeur, beaucoup sont convaincus aussi que c'est, on peut gagner plus sur le plan économique, la circulation libre des produits, des marchandises, et ça c'est déjà une bonne chose, un avantage considérable.
Cher ami, si déjà notre État reconnaît que nous ne vivons que des minerais qui sont exportés à l'étranger, ce peuple-là, lui, va exporter quoi? Ils vont faire quel commerce qui sera compétitif? On va faire quel commerce? Ce qu'il faut là, peut-être à l'interne, aller vendre les ndunda, tout ça, ce n'est pas ça. C'est cette économie qui sera rentable pour l'État congolais. Mais ce qui c'est ce que font déjà les populations frontalières là, ils font déjà ça. C'est chaque jour que quand on ouvre la frontière, il y a des gens qui traversent. Mais ça, c'est pour la consommation, c'est pour eux. Pour le développement du pays, ce n'est pas ça. Peut-être que l'État entrevoit des grandes structures pour que nous puissions capitaliser tout ce qui échappe à l'État par l'effet de la contrebande, ainsi de suite. Pour qu'on capitalise et pour qu'on ait suffisamment de moyens. Je crois que c'est à ce niveau où peut-être les populations ne comprennent pas, ou ne saisissent pas trop le choix, la politique et stratégique de nos dirigeants. Mais moi, je suis fort persuadé que le chef de l'État avait bien analysé, ses services et tous ceux qui l'accompagnent avaient bien analysé pour délibérer ce que nous puissions adhérer. Sûrement que les ministres de l'économie et tout ce qui assure le développement et ceci avait été mis à contribution. Mais quand je vois les flux d'activités qu'il y a dans ces coins-là, il y a plus d'activités de contrebande de minerais. Et ça va permettre que nous puissions tracer maintenant ces minerais. Mmh. Parce que même avec les processus de Kimberley, les gens ont réussi à contourner. Ont réussi à contourner pour créer d'autres mécanismes pour échapper au contrôle. Alors, attendons voir si dans ce cadre juridique qui se crée entre ces États, et il faudrait le rappeler, c'est un cadre qui se superpose à celui de la CIRGEL, où il y a certains États qui se superposent à celui de la CPGEL, et ainsi de suite. Attendons voir si ça va marcher. Nous aussi, on voudrait bien observer. Mais nous pensons que s'il y a une volonté de mieux faire, des vrais diplomates, on va arriver à tirer vraiment profit de cette nouvelle adhésion.
Bien, on va accueillir Safari depuis Gabarrière. Bonjour Safari.
Oui, bonjour monsieur. Bonjour aussi à monsieur l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, merci pour la parole. Moi, non, j'aimerais dire ceci. Le fait de s'adhérer au sein de cette communauté, moi, je pense que ce n'est pas une chose de mauvais, car le fait de s'adhérer au sein de cette communauté, ça crée déjà une bonne collaboration, une bonne relation au sein de ce pays. Alors, le problème, peut-être la question est que, est-ce qu'avant cette adhésion, la RDC n'était pas vraiment en relation avec ce pays? Ça, c'est peut-être une question. Alors, quant à l'économie, je pense que ça ne peut pas suffisamment nous aider, car il me semble que la RDC collabore déjà avec les pays de l'Est, car ce qui concerne les commerces. Ça, c'est ce que moi je vois, c'est mon avis. Alors, normalement, on dirait que cette collaboration devait aider la RDC plutôt à combattre l'insécurité, que les pays de l'Est qui deviennent maintenant les pays membres avec la RDC puisse aider quand même la RDC à combattre l'insécurité surtout au niveau de l'Est. Ça pourrait être peut-être ça l'avantage de cette adhésion. Alors le fait de trop parler de l'économie, moi je pense qu'en économie la RDC est déjà en collaboration, ça aide déjà la RDC, car la base de l'économie de la RDC, ça provient aussi de l'Est. Donc c'est ça mon avis. Sinon, bonne journée à vous.
Bien, merci professeur Prince Kaloumé.
Oui, oui, j'ai bien suivi M. Safari. Je partage sa perception qui est très logique. Mais je veux lui ajouter que combattre l'insécurité ne dépend pas de l'intégration, hein, ne dépend pas de la bonne volonté des autres États. Dans chaque État a ses intérêts. Donc, si pour les autres États de la sous-région, leurs intérêts sont économiques, et vous savez que même la guerre produit une économie quelconque. Hein. Même la guerre est une activité économique pour certains. Donc, on peut être en guerre, mais d'autres se font la richesse, deviennent millionnaires. Moi, je suis d'avis que pour combattre l'insécurité qu'il y a à l'Est, ça ne nous engage que nous. Il faudrait doter les militaires de moyens conséquents. Donc on ne doit pas attendre que l'aumône vienne de nos voisins. On a tenté plusieurs opérations, Oumo, Djawé, tout, on est même au niveau de la mutualisation des forces. Moi, je suis d'accord parce que je suis un fin partisan du recours à la force armée.
Professeur Kaloum, bien qu'il y ait l'insécurité à l'Est favorisée par le pays est déstabilisé de temps en temps par certains voisins, mais cela n'empêche pas aussi d'avoir d'entretenir des relations économiques au niveau sur le plan et des échanges sur le plan économique et gagner des parts et d'autres.
Effectivement, c'est pour ça que à sa première question, il a même affirmé, nous avons déjà des relations diplomatiques. Nous avons avec plusieurs de ces États des grandes commissions mixtes. Ce qui veut dire que nous nous retrouvons pour résoudre nos problèmes économiques. Nous avons Rwanda Air qui est ici, nous avons, c'est pas moi si Burundi, la CER aussi, la RDC. On peut nous donner des avantages mutuels par des accords bilatéraux, pas nécessairement par l'adhésion à une organisation. Or, si nous faisons l'adhésion à une organisation, c'est que nous voudrions établir un grand espace d'échange économique. Moi, je suis persuadé que établir un grand espace d'échange économique, c'est une idée, mais qui ne sera pas très rentable parce que nous sommes tous les États, nous sommes tous souverainistes. Chaque État qui est dans cette organisation-là estime que l'autre garde chez lui des mouvements subversifs qui peuvent le déranger. Maintenant, faire que on va supprimer les barrières, il n'y aura pas de frontières, tout ça, vous pensez que tous les États vont accepter? Il ne faut pas accepter. Ils vont accepter sur les textes, mais dans les faits, il y aura toujours des retards de mise en œuvre, il y aura ceci, il y aura cela, au point que il y aura trop de léthargie. Mais nous pensons que ça peut aller. Nous pensons que ça peut aller, et c'est comme ça que je me dis, moi, outre le fait de tenter l'intégration comme nous le faisons, on peut maximiser aussi les accords bilatéraux, on peut multilatéraux, pour nous donner des avantages économiques, ce qui est possible. Donc,
bien, certains pensent aussi qu'on peut avoir un passeport commun, voyager sans problème, avec un laissez-passer, on peut traverser tous ces pays de la communauté sans difficulté.
Pensez-vous que quelqu'un qui est à Kinshasa peut avoir un grand intérêt à aller au Burundi ou au Rwanda? C'est celui qui est à Bukavu et à Goma et qui, pour traverser, n'a besoin que d'un laissez-passer à la frontière. Ça sont déjà des cas réglés au niveau de la coopération frontalière entre les villes. C'est déjà réglé pour la circulation des personnes. Mais maintenant, pour les grandes entreprises, les marchés innovants d'intégration, qu'est-ce qu'il faut? C'est là la difficulté. Ceux qui sont frontaliers vivaient déjà cette intégration de fait. Ils traversent chaque jour Rwanda, des Rwandais viennent ici, chez nous, à Goma, faire l'ambiance, rentrer. Donc, font même les commerces, vendent des véhicules. Ça existe.
Bien, un instant, on va accueillir Boumediene de Lubumbashi. Bonjour.
Bonjour, Jody.
On vous écoute.
Ah oui, merci beaucoup. Moi, j'ai toujours commencé par un regret. Les Congolais sont dans un système d'un verre d'eau à moitié plein et à moitié vide. Moi, je suis dans un verre d'eau à moitié plein, parce que je suis toujours optimiste. L'adhésion de la RDC vers le pays de l'Est, ce n'est pas mauvais. Même si nous ne profitons pas aujourd'hui, même le Dieu Tout-Puissant n'a pas créé le monde dans un seul jour. Il l'a fait pendant 7 jours. Après chaque jour, il contemplait ce qu'il faisait, il corrigeait ce qu'il était mauvais. Et il y a d'autres intervenants qui ont parlé de la guerre. Nous attendons pas avec le Rwanda. Vous savez, avec le Rwanda, il y a ceci, il y a cela. Mais si vous prenez l'Allemagne et la France, depuis combien de temps ces deux pays ne s'attendaient pas? Aujourd'hui, ils sont là comme ténors de l'Union européenne. Et vous avez vu, pour que l'Ukraine soit acceptée à l'Union européenne, la Russie pose des conditions, il ne faut pas l'accepter. Parce que si l'Ukraine était acceptée, les Occidentaux allaient protéger l'Ukraine. C'est pour vous dire que tout simplement, une idée peut commencer, mais nous ne savons pas quand est-ce que ça peut se terminer dans le bon ou dans le mal. Accompagnons l'idée. Les Congo vont en profiter puisque nos amis de l'Est vont commencer à se déplacer sans beaucoup de difficultés. Et les produits qui produisent à l'Est, là, les cafés, nous ne produisons plus de café. C'est le moment maintenant de construire les cafés. Donc, café, de faire beaucoup de café et sortir vers l'Est. Lorsqu'on parle que le Rwandais est en train de il a une usine de l'or même. Mais si nous mettons cette usine au Congo, nous commençons à exploiter, contrôler l'or, notre propre or, est-ce que le Rwanda va produire encore cet or? Il lui trouvera où?
Bien.
Mais tout simplement que non, non. Nos amis de Kinshasa n'ont pas l'intérêt. N'ont pas l'intérêt d'aller à l'Est. Non! Un commerçant, il sait ce qu'il cherche. C'est qu'il peut chercher peut-être à l'ouest, au nord, au sud ou à l'est. C'est à lui de se déplacer vers le lieu où il y a ses intérêts. Un Congolais qui est au nord peut aller à l'est. Un Congolais de l'est peut aller à l'ouest. Un Congolais du centre peut aller au sud. C'est comme ça. Mais s'il y a cette adhésion-là, ça va permettre à ce Congolais-là. Hein? Et l'État est en train de voir dans quelle mesure ce n'est pas tout simplement les minéraux. Vous avez vu le président de la République vient de dire, il a déclaré également que la suprématie de la terre sur le sous-sol, ça veut dire quoi? Nous sommes des projets, on est en train de faire des histoires dans ce sens-là pour que nous, Congolais, nous puissions commencer à exploiter nos histoires, pas toujours importer. Mais ça commence par une petite histoire, par une petite chose, jusqu'à tel point qu'on aura 20%, 30%, 40%, 50%. Ne soyons pas pessimistes.
D'accord, merci. Merci.
Les idées, corrigeons ce qui est mauvais.
Voilà, merci Boumediene.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Professeur Prince, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir?
On peut retenir qu'au niveau de l'Afrique, l'intégration est toujours double. Hein. Il y a l'intégration qui commence dans les communautés et l'intégration qui commence au niveau continental, comme au niveau de l'Union africaine. C'est un modèle spécifique qui diffère de l'intégration telle qu'elle a commencé en Europe. Nous, on a créé notre modèle d'intégration. On intègre les communautés qui vont, au fur et à mesure, s'améliorer et remplir toute la région. C'est possible. Donc, on peut commencer par des petites intégrations comme celle-ci. Pour autant que ça marche, on avait un très bon modèle de la CEDEAO, mais vous avez vu que tous les États de la CEDEAO ont eu des problèmes de coups d'État, des guerres, ainsi de suite, au point que l'intégration a vacillé. Mais nous sommes confiants que si nous renforçons ces modèles d'intégration par les petites intégrations comme celle-ci, et lorsque ça marche bien, on pourra réussir l'intégration de l'Afrique, on pourra réussir les objectifs de l'Union africaine jusqu'en 2063, comme on se le donne, et on pourra penser que les États africains, dont la plupart ont des économies extraverties, et on le dit tous les jours ici, économies extraverties, parce qu'effectivement, il n'y a pas d'opportunité d'assurer l'intégration économique en Afrique, et on n'y a jamais pensé.
Bien.
Si nous pensons à ça et qu'on pense que ça peut réussir, on doit se dire que demain sera mieux qu'aujourd'hui.
Bien, merci professeur Prince Kaloum Ebeya. Je rappelle que vous êtes expert en droit international public. Merci d'avoir participé à cette émission pour parler de l'adhésion de la RDC à la communauté de l'Afrique de l'Est. Excellente journée et à la prochaine.
Moi, je vous remercie. À la prochaine. Merci beaucoup.